RFI, minuit à Paris, 23h, en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, 3 otages israéliens libérés par le Hamas en échange de 183 prisonniers palestiniens. Ils sont les premiers otages à apparaître aussi éprouvés physiquement. Dans ce journal, nous serons en Hongrie. Les médias indépendants et les ONG dans le viseur de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois lance une offensive pour réduire leur financement provenant de l'étranger. En Inde, victoire stratégique du parti de Narendra Modi dans la région de Delhi, une première depuis 1998. Et puis marche arrière, Donald Trump annonce le retour des pailles en plastique. Les États-Unis, deuxième producteur mondial de plastique. Vous avez les titres, bienvenue. Amaigri et affaibli, 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés par le Hamas. En échange, Israël a libéré 183 prisonniers palestiniens. Comme les 4 fois précédentes, la mise en scène organisée par le mouvement islamiste a de nouveau choqué en Israël. Heike Schmidt.
Encadrés par des combattants armés et cagoulés, Or Levi, Eli Sharabi et l'israélo-allemand Ohad Ben-Ami ont été exhibés sur un podium orné de drapeaux du Hamas avant d'être remis à la Croix-Rouge. À Tel Aviv, des centaines d'Israéliens ont suivi en direct sur un écran géant cette 5e libération, soulagés mais aussi sidérés en voyant l'état physique inquiétant des ex-otages. Voilà ce à quoi ressemble un crime contre l'humanité, a déclaré le président Isaac Herzog, qui a appelé, je cite, « le monde entier à regarder ces 3 hommes affamés, au visage émacié et souffrant, en train d'être exploités pour un spectacle cynique et cruel ». Le premier ministre Benjamin Netanyahou, en déplacement aux États-Unis, a lui dénoncé des images choquantes qui ne resteront pas sans réponse. Peu après, Israël a libéré 183 prisonniers palestiniens, 7 de ses ex-prisonniers. Les prisonniers ont dû être hospitalisés, raison pour laquelle le Hamas a accusé Israël de laisser mourir à petit feu les détenus palestiniens dans ses prisons.
Pendant ce temps, en Cisjordanie, une ONG accuse Israël de raid délibéré contre les familles qui attendaient la libération de leurs proches dans le cadre d'un nouvel échange avec des otages à Gaza. À noter que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé des négociateurs au Qatar pour discuter de la trêve à Gaza. Après plus de 2 ans d'intérim, le Liban a enfin un gouvernement. Il sera dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam, qui souhaite un gouvernement de réforme et de salut. Des réformes, c'est ce qu'espère l'ambassade américaine qui a salué la formation de ce gouvernement. Le pays est marqué par une grave crise économique et une guerre dévastatrice entre Israël et le Hezbollah. Direction la Hongrie, après la fin de l'USAID aux États-Unis, Viktor Orban veut emboîter le pas de Donald Trump. L'agence de développement soutenait des médias indépendants dans le monde entier. Et justement, le Premier ministre hongrois veut museler le paysage médiatique de son pays. Il a annoncé une offensive contre les ONG et les médias indépendants qui reçoivent des fonds des pays étrangers. À Budapest, Florence Labruyère.
Encouragé par les purges mises en place par Donald Trump, Viktor Orban va encore plus loin que le président américain. À la radio hongroise, le Premier ministre promet d'éliminer les médias indépendants et les ONG, tous des agents de l'étranger, manipulés par le philanthrope américain George Soros. Pour Viktor Orban, une seule solution.
Il faut les balayer. Le président américain a montré la voie. C'est le moment ou jamais d'éliminer le réseau Soros et tous ses réseaux internationaux. Nous allons légalement les empêcher de fonctionner.
Tomáš Bodoki est rédacteur en chef du média indépendant Atlatso, un média réputé pour ses enquêtes sur la corruption du pouvoir. 30% du budget du journal vient de l'aide américaine. Même sans cette aide, le média pourrait survivre, mais il y a les menaces d'Orban et il faut les prendre au sérieux, selon ce journaliste.
J'en ai bien peur, il va faire tout ce qu'il peut pour faire fermer ces organisations. Aujourd'hui, les médias indépendants et les ONG ont tout à fait le droit de recevoir des dons de l'étranger, donc il faudrait que le pouvoir vote une loi pour rendre tout cela illégal.
Atlazzo est aussi financé par des fonds européens. En théorie, un État membre ne peut pas interdire à un média de recevoir de l'argent de Bruxelles. Mais Viktor Orban semble déterminé à trouver un moyen de faire taire les contre-pouvoirs. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
En Allemagne, plus de 250 000 personnes ont manifesté à Munich à 2 semaines des législatives. Une mobilisation déclenchée après le rapprochement du candidat conservateur de la CDU, Friedrich Merz, avec le parti d'extrême droite AfD pour faire adopter une motion visant à bloquer tous les étrangers sans papier à la frontière. Depuis, la CDU répète qu'ils excluent tout gouvernement de coalition avec l'AfD, mais pas de quoi satisfaire les manifestants qui l'accusent de tendre la main à l'extrême droite. RFI, 4h05 à New Delhi. C'est un jour historique pour le BJP. Le parti de Narendra Modi revendique la victoire des élections de l'Assemblée de Delhi. Le parti nationaliste hindou n'avait pas pris le contrôle de Delhi depuis 1998. Selon les premières estimations de la commission électorale de l'Inde, le BJP a remporté 47 sièges de l'Assemblée législative de 70 membres. Le parti sortant à demi-parti est en tête dans 23 sièges. Léa Ojal, dans les rues de la capitale, la victoire a été largement célébrée par les militants.
Le dépouillement des résultats est à peine terminé, mais le BJP célèbre déjà sa victoire. Les militants s'enlacent devant l'un des QG de la capitale, écharpe safran autour du cou. Gaurav Arora attendait ce jour depuis longtemps.
On a attendu ce jour depuis plus de 27 ans, c'est une grande, grande victoire.
Ici, les portraits de Narendra Modi sont affichés de partout. Pour le militant Ajay Agarwal, la victoire du BJP est une prouesse politique pour le pays tout entier.
C'est un jour historique pour le BJP et je voudrais dire pour tout le pays, c'est la capitale nationale de l'Inde. L'Inde va devenir le pays le plus démocratique du monde.
Le parti de Modi a su conquérir l'électorat en promettant des mesures radicales sur l'environnement. Aarti Upadhyay est candidate du BJP à Delhi.
Le BJP a de nombreuses raisons pour lesquelles il doit gouverner ici. La première est la Yamuna. C'est une rivière très sacrée, les gens se lavent dedans. Elle est en très mauvais état et l'ancien gouvernement n'a rien fait pour la nettoyer malgré ses promesses.
À présent, le BJP dirigera 20 états sur les 28 qui composent le pays. Léa Ojal, RFI, New Delhi.
Et pendant cette campagne, les débats ont très peu été portés sur la crise de la pollution de l'air. New Delhi est classée comme la pire capitale du monde en ce domaine. L'environnement, ce n'est pas non plus la priorité de Donald Trump. Fini les pailles en carton aux États-Unis. Le président américain clame le retour au plastique sur ses réseaux sociaux. Dans la droite ligne de ses déclarations climato-sceptiques et le démantèlement de toutes les mesures en faveur de l'environnement prises par son prédécesseur, Simon Rosé, au-delà des pailles, le sujet n'est pas si anecdotique que ça pour le deuxième producteur mondial de plastique.
C'était un décret signé par Joe Biden, bannir aux États-Unis les ustensiles en plastique à usage unique d'ici 2035. Décret qui fait donc long feu avec cette nouvelle déclaration de Donald Trump qui marque pour le coup son opposition aux politiques environnementales de son prédécesseur et son soutien à l'industrie américaine des hydrocarbures. Le secteur a besoin de débouchés. L'Agence internationale de l'énergie anticipe un pic de la demande en pétrole dans 5 ans dans le monde. En résultera un décalage entre production et consommation. Principalement composé d'hydrocarbures, le plastique est ainsi identifié par les géants du pétrole et du gaz comme une perspective prometteuse. Mais voilà, le monde étouffe déjà sous la pollution plastique. 400 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année. Du fond des océans au sommet de l'Everest, on les trouve partout, même dans le corps humain, dans le cerveau, le sang ou encore le placenta des femmes enceintes. Pour y remédier, un traité international est en négociation, mais les discussions sont compliquées entre partisans d'un texte ambitieux qui veulent limiter la production et les pays qui ne veulent pas en entendre parler, au rang desquels les principaux producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. Une nouvelle session de négociation est prévue cette année.
En France, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il mettait ses activités publiques entre parenthèses et ne s'exprimerait plus dans les médias. Vendredi, un bracelet électronique lui avait été posé après sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Une peine aménagée donc. Sur le réseau social X, il précise qu'il déposera avant la fin du mois un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. 13 personnes liées à l'extrême droite seront jugés en juin pour des injures racistes visant la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura. Elle avait porté plainte après la vague de cyberharcèlement raciste en lien avec l'annonce de son éventuelle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis du sport avant de fermer ce journal, défaite sur le gong pour l'équipe de France de rugby face à l'Angleterre 25-26. Un sentiment de gâchis pour Antoine Dupont. Le rêve de grand chelem est déjà envolé. Le 15 de France se déplacera en Italie le 23 février pour son prochain match. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.